Allô tout le monde! On va appuyer sur le piton. On appuie sur le piton, la lumière est rouge. Quand la lumière est rouge, ça veut dire qu'on est en onde, hein? Ben oui. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Comment ça va, vous autres? C'est une température spéciale édition, hein? Le mois d'avril cette année. Mais c'est le printemps. C'est comme ça. Ça fait longtemps que c'est comme ça. On a déjà vu des tempêtes le 30 avril. Alors, faut pas s'en faire avec ça. C'est une température, un printemps tout à fait normal. Puis après ça, vous allez voir, le beau temps va arriver. Ça a tout fondu. Je regardais ça. Je suis allé prendre une petite marche vite. J'ai été pogné au téléphone avec la banque, avec un puis avec l'autre. Puis finalement, j'ai eu à peine le temps de dîner. Je vous dis, là, je voulais prendre une grande marche, puis j'ai même pas eu le temps de la prendre, là. C'est pas... Tu sais, à un moment donné, il faut régler aussi des choses, nos affaires. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, radio indépendante en direct du centre-ville de Québec, et je vous accompagne jusqu'à 18h avec les meilleurs succès radio de tous les temps, l'actualité, ce qui se passe sur la boule. Puis malgré les mauvaises nouvelles, il y en a des bonnes. Ben oui, il y a des bonnes nouvelles. Ça va finir par se replacer puis s'arranger. Il faut juste être patient puis être optimiste. Vous êtes sur Radio Fiat Lux. Georges Fernand-Poirier qui vous accompagne jusqu'à 18h sur une des seules radios indépendantes web radio numéro 1 à Québec, radio.fiatlux.tk. En TK, vous allez voir que ça va bien aller.
Au milieu du Saint-Laurent, le pont du diable tomba pour une première fois. C'est le début de l'histoire, une histoire sans bon sens. C'est le début de l'histoire qui a traversé le temps.
À la première plonge,
juillet 1916, le drame se répéta.
Juillet 1916, le drame se répéta.
Le pont du diable chuta, victime d'un maléfice. Une autre gang d'ouvriers à la mer fut jetée.
À la deuxième plonge, à la deuxième plonge.
Proposé par un homme bien bizarre, un ingénieur étranger. Le pont ne tombera plus, oubliez les catastrophes. En échange de l'âme d'une personne perdue.
En échange de l'âme d'une personne perdue.
L'ingénieur diabolique attendait son arme pure qui ouvrirait le trafic. Le pont n'est pas tombé, respectez vos promesses. Livrez-moi une personne, la première à traverser.
Livrez-moi une personne, la première à traverser.
Même un chat noir passait par là, en prenant par la queue, le reptilien vont les lancer. Le pont n'est pas tombé,
Attention mes amis, il se vengera aujourd'hui.
Le pont n'est pas tombé, Lucifer fut déjoué.
Attention mes amis, il se vengera aujourd'hui.
Attention mes amis, il se vengera.
Dans ce temps-là, là, si t'en veux-tu de la drogue, sors ton cash. Ça marchait de même dans le temps, là. Dans les années 70, là, c'est pas nouveau la drogue, là. T'en veux-tu de la drogue? Sors ton cash. Ça marchait de même dans le temps. Ça a beaucoup changé, remarquez bien, là. Dans ce temps-là, il y avait des drogues hallucinatoires, toutes sortes d'affaires que moi, j'ai pas essayé. J'étais censé être médecin, moi, ça fait que j'avais étudié la drogue, j'avais étudié ça. Alors, moi, je m'en tenais des expériences alcaloïdiques, parce que les alcaloïdes, ça vient d'une pousse naturelle, oubliez pas ça. On va écouter une bonne toune de PAG. Hey, numéro 1 radio. PAG Live. Vous êtes sur radiofiatlux.tk dans GFP en direct. N'oubliez pas que malgré les mauvaises nouvelles, il y a toujours des bonnes nouvelles. N'oubliez pas ça, là. Arrêtez de vous décourager. Mais moi, je suis content de vous accompagner, vous autres, les personnes, les vieux, les personnes qui sont à la maison, qui sont confinées. Alors, nous autres, c'est un peu notre mission, la radio. Et vous savez qu'en passant, parlant de radio, c'est vraiment pas facile pour les... Même les gens qui font de la radio. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer mon ventilateur. Mais... c'est vraiment pas facile faire de la radio par les temps qui courent parce que il faut pas se leurrer, là. Le confinement, il va durer combien de temps? On a remis, entre autres, les écoles secondaires, les écoles, toutes les écoles, c'est remis. Il y aura pas de... d'après moi, ça va recommencer en septembre, donc... Mais il y a quand même des... Il y a quand même des experts en... En éducation, qu'on appelle, je cherche mes mots, là. Il y a des experts en pédagogie qui ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait calculer le nombre d'heures qui ont été accumulées, trois quarts, on dit. Donc, il restait le tiers à faire. Donc, on va être capable de quand même de s'en sortir. Puis, le 1er septembre, ou après la fête du travail, je pense que tout va probablement revenir à la normale. C'est ce que nous espérons. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.ca, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec, expérimentale, avec un studio B revampé de A à Z. Je sais pas, mais c'est un drôle de hasard, mais on a tout revampé le studio avec une console neuve et tout ça. Alors, on va vous accompagner, on va rester avec vous. Ça durera le temps que ça voudra. GFP va être avec vous autres.
Sur radio.fiatlux.
Si Dieu le veut. N'oubliez pas, à 16h15, les citations des recherches du docteur Raoul, l'éminent scientifique microbiologiste numéro 1 en Europe. Donc, on aura les citations de ses recherches à 16h45 sur nos ondes, sur radio.fiatlux.ca.
We'll be right back.
sous vidange, on vient d'entendre 10 minutes de pub d'annonce de char. Le prochain segment de l'émission est une présentation de Chrysler de Beauport. On a aussi le Facebook Live là, ici en caméra en haut à droite. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires pour qu'on puisse vous envoyer promener. Ici à Radio Vidange, on met toujours un ou deux mots en anglais dans nos jingles et nos noms d'émissions. Comme ça, ça fait plus américain. Parce qu'eux autres, les Américains, ils savent comment pas taxer leurs citoyens. Ah oui, je sais, il y en a qui vont appeler. Ils vont dire, ouais, le Steve, là, il n'y a pas d'assurance maladie aux États-Unis. Pas grave, il n'y a pas de taxe aux États. Non, ouais, mais là, Steve, tu casses un bras, tu vas à l'hôpital, ça va coûter 15 000 $. Hey! Le vin, l'alcool aux États-Unis est deux fois moins cher qu'à la SAQ. Parle-moi de ça. Question de priorité chez nos gouvernements, j'imagine. Bon, là, il y a eu des élections fédérales. C'est encore le petit Justin qui a gagné, mais oh!
Salutations aux centaines d'auditeurs qui se rajoutent tout le temps, jour après l'autre, sur notre radio. Ça nous fait plaisir de... Bienvenue dans notre radio Fiat Lux. C'est une radio indépendante à Québec qui diffuse à partir de la rue Saint-Jean, dans Saint-Jean-Baptiste. Et ça nous fait plaisir de vous offrir de la bonne musique, de vous accompagner pendant cette tabarouette de COVID-19-là. We should all throw in the towel. Fade out too soon. Not in this finest hour. We'll send your favorite tune. We'll send the card and flower. Sing it some mistake. Alors, à 16h45, avec le docteur, citation du docteur Raoul, sur l'éventualité de l'antidote qui serait l'hydrochloroquine. Donc, les recherches du docteur Raoul. Citation, émission qu'on a diffusée à la fin de mars. Donc, vous savez que les chercheurs sont un petit peu, ils ont tout le temps été un petit peu bâillonnés et censurés. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent sans l'aval gouvernemental. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais M. Harper, lui, tous les chercheurs, les scientifiques, tout ce que tu voudras, là, toutes les recherches scientifiques, etc., il fallait que ça passe par l'aval gouvernemental. Ben oui, je ne sais pas si vous saviez ça, mais ça a changé vraiment, non, parce que ils veulent pas que, premièrement, dire la vérité totalement puis faire peur à la plèbe, là, c'est quelque chose. Hein? Si nous savions véritablement le fond de cette histoire-là, je peux-tu vous dire qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui dormiraient peut-être pas en tout. Mais c'est pas la réalité, on le sait pas. Donc, la question est, tu sais, le fameux laboratoire qu'on a vu à Yuan, qui a été photographié, il semblerait qu'il y a toutes sortes de thèses, il y a toutes sortes de théories qui sont invérifiables. C'est un peu ça. Alors, faut prendre ça, faut respirer par le nez, prendre ça relax, puis garder au cœur l'espérance. Moi, c'est ça que je me dis. Puis en même temps, ben, je suis content d'être avec vous autres, puis on va écouter de la bonne musique. Quand on va écouter Fabienne? Ça fait longtemps que j'ai pas écouté. On va écouter Fabienne Thibault, la belle voix de Fabienne sur Radio Fiat Lux.tk, radio indépendante de Québec.
Je suis secrétaire de star, j'ai son verre d'eau, j'ai sa guitare. Ce soir, la salle est pleine. Voilà le fauve en liberté qui vient chercher sa nourriture. Pendant 2 heures, il va chanter et leur rugir de toutes ses blessures. Et moi, mon bureau, c'est sa tête et ses horaires règlent ma vie. Ses triomphes sont mes jours de fête et ce relâche mes jours d'ennui. Ah, ah, je suis secrétaire de star. J'entends du bruit dans le couloir. Encore une femme dans les coulisses qui a roulé le portier de service. Moi, je suis son miroir de poche, le reflet qui ne lui ment pas. Et je sais que je suis plus proche de lui que celle qui est dans ses bras. Qu'ils n'ont rien su m'apprendre, et je leur dis pourquoi.
Alors, à 16h45, on aura les citations du Dr Raoul. Je vais essayer de trouver l'extrait, là, c'est parce que ça a l'air de rien, mais il y en a des tabarouettes, des podcasts là, de GFP, là, il y en a des milliers. Fait que on va faire notre possible, puis on va le trouver. Là. Si on le trouve pas, on prendra notre temps, on va finir par trouver l'extrait. Il y en a deux. Alors, c'est de trouver la date, c'est parce que j'étais distrait, j'ai pas eu le temps. J'ai tellement de choses à faire, là. J'ai été occupé beaucoup, beaucoup par les derniers temps. Fait qu'on va écouter, une bonne tourne d'América. On va se détendre, on va se relaxer. Il n'y a rien là. Il n'y a pas de problème. Vous êtes sur Radio Fiat Lux avec de la pluie à l'extérieur. Ça va faire du bien, ça va laver. Ça va faire fondre la neige.
I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic. You can have anything that you desire. Magic. And you know you're the one who can't put out.
GFP en direct, vous écoutez les meilleurs succès radio de tous les temps. Je vous souhaite une belle soirée. Un beau 21 avril, deux mois avant l'été, hein? C'est pas pire. Hein? GFP en direct avec les meilleurs succès radio de tous les temps. Passez une belle soirée avec nous autres.
Jusqu'à
On va écouter la reine du disco. Bon, ça finit comme ça. Ça finit direct de même. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. On va écouter maintenant, comme je vous disais, bon, on va écouter une tonne avant, là. Bon, je n'avoue pas, là, le toupette avec ça, là. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. On va écouter une bonne petite tonne de Stephen Faulkner. C'est un Québécois allemand, puis moi, je le trouve bon. Je trouve qu'il est cow-boy un peu, puis tu sais, il s'est associé avec Plume la Traverse. Ben oui. Plume est cassonade, là. Ben, Cassonade, son nom, c'est Stephen Faulkner. Puis moi, je l'ai déjà vu au Foubar, c'est à la rue Saint-Jean. C'est Lily qui m'avait invité, là. J'avais pas de cash sur moi, j'ai déjà pas d'argent sur moi, puis tout ça. Puis c'était à guichet fermé. D'un coup, je rencontre Lily, elle me dit, « Bah oui, rentre donc, Georges. » Fait que là, c'est là que j'ai vu mon capoté à Stephen Faulkner au Foubar, c'est à la rue Saint-Jean. Pis c'est vrai que c'est un bon musicien, il est vraiment bon. Écoutez bien. C'est un moyen capoté. C'est un Shining.
Arrête d'embrouiller, puis de crier au malheur. Tu vas finir par te noyer, tellement tu pleures. Même si je peux rentrer demain, arrête donc de te plaindre. Tu le sais bien que je m'en vais reviendre. Hier soir, je partis sago. J'ai tout fait, les clubs en ville. On a fermé le radio, moi pis le gros Bill. Y'a pas de quoi faire une crise, puis préparer tes valises. Tu le sais bien que je m'en vais reviendre.
Ben, pour ceux qui le savaient pas, là, pour ceux qui le savaient pas, ben, lui, c'est Cassonade, là, c'est lui. C'est Cassonade, c'est Stephen Faulkner, qui a été associé longtemps avec Plume la Traverse, dans toutes sortes de musique, puis toutes sortes de cabales, toutes sortes de voyages. Alors, on va y aller avec, comme promis, à 16h45. Alors, je vais essayer de trouver l'extrait. Alors, j'avais numéroté toute la patente, j'espère que ça marche. Bon. Ça marche pas, on va finir par le trouver, là, vous allez voir. C'est cet extrait-là, c'est celle-là. Je pense que c'est pas cet extrait-là. En tout cas, je m'en souviens plus ce qu'elle est l'extrait. Sacrement.
Les humbles veillent. Telle était la tonitruante affirmation proférée le 26 février dernier par le meilleur infectiologue au monde.
Bon, je pense que je l'ai trouvé, là. J'espère que c'est pas l'extrait numéro 2, mais en tout cas, c'est des recherches du Dr Raoul. On écoute ça tout de suite. Après la toune, c'est les recherches du Dr Raoul. C'est Georges Fernand Poirier qui vous accompagne jusqu'à 18h sur Radio Fiat Lux, .tk, Independent Radio. Ouais, par rapport aux chiffres, ça concorde. Fait que restez là, ça s'en vient.
contre une radio qui déciderait de tout le temps faire peur au monde avec des épouvantails. Alors, il n'y a rien d'impossible. Puis, je pense que le docteur Akuda l'a même pas mentionné, mais quasiment. Alors, on va regarder ensemble la face cachée de l'histoire. Le shaker francophone, le chaos du monde, ne naît pas de l'âme des peuples, des races ou des religions, mais de l'insatiable appétit des puissants, les humbles veillent. Telle était la tonitruante affirmation proférée le 26 février dernier par le meilleur infectiologue au monde. Selon le classement Expert Cape, accueilli pourtant avec scepticisme et même sarcasme par la communauté scientifique. 3 semaines plus tard, la réalité est en train de lui donner raison, révélant au passage que nous aurions à peu près tous tout faux face au virus, ce qui en fait est une excellente nouvelle. Nous voici donc, dit-on, en état de guerre. Nouveauté, certes, pour nos générations qui, sauf pour les plus anciens, n'ont connu que des temps de paix. L'Europe est sous un quasi-couvre-feu avec une restriction massive des libertés individuelles et une casse économique et sociale qui promet d'être dramatique. Les discours des chefs d'État s'enflamment à qui mieux. Nous sommes attaqués. L'ennemi est invisible, sournois, redoutable. Mais nous en viendrons à bout. Ce genre de vocabulaire paraît d'un autre âge. La réalité est plus prosaïque. Nous subissons la contamination à large échelle par un virus qui est un pur produit de la rencontre entre la bêtise humaine, l'entassement dans des cages d'animaux sauvages de diverses espèces dans des marchés insalubres, et de l'inventivité du vivant. La bestiole a donc franchi la barrière interespèce et s'est propagée à partir de là entre humains. Ce n'est pas une guerre. Nous ne pouvons jamais vaincre ou éradiquer une créature. Nous prémunir contre ses dégâts, si, puis nous aurons à apprendre à vivre avec elle, ce qui réclame une autre intelligence que celle des slogans martiaux sanitaires. On parle de précautions luminaires. Je l'ai dit et je le répète, en ces temps de mobilisation collective, nous avons tous à respecter scrupuleusement les mesures qui sont imposées. Même si on doute de celles-ci et qu'on les trouve inadaptées, aucun d'entre nous ne peut donner le droit de suivre sa propre idée. Cette conformité que je n'ai cessé de prôner m'habite inconditionnellement. Par contre, cette obéissance civile ne doit surtout pas conduire à une interdiction de penser ou de parler. Nous vivons des temps hautement traumatiques, avec des dégâts sur la population qui seront considérables. Donner sens à ce que nous vivons, nous renseigner, oser poser des questions est non seulement un droit inaliénable, mais aussi une nécessité vitale. J'ai lu passablement de commentaires ironiques sur le nombre soudain de virologues et d'épidémiologistes amateurs s'exprimant sur des réseaux sociaux, ce que je peux comprendre, mais je pense à l'inverse, que plus les citoyennes et citoyens s'intéresseront à ce qui nous arrive, plus ils s'informeront ou même se documenteront mieux, cela nous aidera à mettre en dialogue ce que nous vivons, ce qui est essentiel à la fois pour notre santé psychique, individuelle et notre résilience collective. On m'a parfois objecté, et j'avais une responsabilité en tant que scientifique, que les analyses que je pouvais faire, toutes pertinentes qu'elles soient, risquaient d'être mal interprétées ou pousser les gens à faire n'importe quoi. Je le rappelle donc, nous avons tous à suivre sans discuter les instructions des autorités. Et abstenons-nous strictement de toute autodétermination, en particulier en ce qui concerne les substances que je mentionnerai plus loin. Utilisées hors suivi médical strict, elles peuvent en effet être dangereuses. Ceci posé, allons-y. D'où je parle? Je suis anthropologue de la santé et expert en santé publique. Mon métier consiste depuis plus de 30 ans à étudier les pratiques des soins et les dispositifs sanitaires. J'arrive à un âge où l'on sait, on perd folie, qu'on n'est pas le nombril du monde et, sauf exception, qu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. J'ai quelques références dans mon domaine, comme celle d'être, malgré l'embarrassante immodestie de ce propos, un des meilleurs connaisseurs actuels des processus de salutogénèse et de rétablissement, ainsi que des déterminants de la santé. Ce qui m'a valu d'être invité à enseigner dans une quinzaine de programmes universitaires et de hautes écoles en santé, faculté de médecine, de l'INIJ, de l'UNIL, etc., etc., Université de Montréal, Fribourg, Neuchâtel, etc. J'ai exercé ma profession hors des milieux académiques, préférant agir au sein des politiques de la santé ainsi que sur le terrain. J'ai créé différents dispositifs socio-sanitaires innovants, en particulier en santé mentale, dont certains font encore référence aujourd'hui. Je m'excuse pour ce petit étalage, c'est le prix à payer pour me prévaloir d'une modeste compétence quant à ce que je vais maintenant avancer. Banal ou pas banal. Depuis le début de l'émergence du coronavirus, je partage mon analyse qu'il s'agit d'une épidémie banale. Le terme peut choquer quand il y a des morts, et a fortiori dans la crise sanitaire et la dramaturgie collective hallucinée que nous vivons. Pourtant, les données sont là. Les affections respiratoires habituelles que nous vivons chaque année font bon an mal an plus de 2 600 000 morts à travers le monde. Avec le COVID-19, nous en sommes au quatrième mois, à 9 000 décès. Et avec le pays initialement le plus touché qui est parvenu à juguler l'épidémie, nous sommes très très loin d'avoir un effet statistiquement significatif au regard de la mortalité habituelle et en particulier de la surmortalité saisonnière. Je l'ai dit et je le répète, le même traitement politique ou journalistique appliqué à n'importe quel épisode de grippe saisonnière nous terrifierait tout autant que l'épidémie actuelle. Comme la mise en scène avec décompte en direct des victimes, de n'importe quel problème sanitaire d'envergure, qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, des cancers ou aux effets de la pollution atmosphérique, nous ferait frissonner d'effroi tout autant et même infiniment plus. Nous savons aujourd'hui que le COVID-19 est bénin en l'absence de pathologies préexistantes. Les plus récentes données en provenance d'Italie confirment que 99% des personnes décédées souffraient d'une à trois pathologies chroniques, hypertension, diabète, maladie cardiovasculaire, cancer, etc., avec un âge moyen des victimes de 79,5 ans, médian à 80,5, et très peu de pertes en dessous de 65 ans. Les maladies chroniques seraient évitables à 80% si nous donnions les moyens de protéger la population plutôt que de sacrifier sa santé au profit d'intérêts industriels. Nous avons depuis des décennies accordé des facilités coupables à des industries hautement toxiques au détriment du bien commun et de la santé de la population pour un développement de ce constat à référer à l'article suivant. Il faut oser le dire, ce n'est pas le virus qui tue, il est bénin pour les personnes en bonne santé. Ce sont les pathologies chroniques qu'on a laissé développer depuis des décennies. Statistiques et probabilités en folie. Il y a un autre problème. Le taux en particulier de complications et de mortalité qu'on nous brandit sous le nez jour après jour ne veulent rien dire. En l'absence de dépistage systémique de la population, Nous n'avons aucune donnée fiable à laquelle référer les données dont nous disposons, nombre de cas déclarés et de décès. C'est un classique en épidémiologie. Si vous ne dépistez pas les morts, vous parviendrez à 100% de taux de mortalité. Si vous ne testez pas le cas critique, vous n'en aurez moins, mais encore beaucoup plus qu'en réalité. Si vous dépistez beaucoup, vous aurez beaucoup de cas alors que vous dépistez peu. Le nombre de cas sera faible. La cacophonie actuelle ne permet juste pas d'avoir la moindre idée de la progression réelle du virus et de sa diffusion. Les estimations les plus crédibles laissent penser que le nombre de personnes déclarées est très largement inférieur, dans un facteur allant selon les meilleures estimations jusqu'à 1 pour 47, au nombre de personnes réellement infectées, dont à peu près la moitié ne se rendra même pas compte qu'elle a contracté le virus. Pour un redoutable tueur, il est plutôt sympa. Nous n'avons donc à ce stade aucune idée de l'ampleur réelle de la propagation du virus. La bonne nouvelle est que les données réelles, en particulier le taux de complications et de mortalité, ne peuvent être que largement inférieurs à ce qui est couramment avancé. La mortalité réelle, comme annoncé à un précédent article, doit en fait s'établir à plus de 0,3% et probablement moins, soit moins du dixième des premiers chiffres avancés par l'OMS. Les dernières statistiques en provenance de Chine évaluent à 800 000 le nombre de personnes infectées et donc très probablement immunisées pour 3 118 décès, soit effectivement un taux de mortalité de 3 pour 1000. Fin du monde ou pas, pareillement, les projections qui sont faites pour imaginer le nombre de morts possibles sont rien de moins que délirantes. Elles reposent sur un forçage artificiel et maximal de toutes les valeurs et coefficients. Elles sont faites par des gens qui travaillent dans des bureaux, devant des ordinateurs, et n'ont aucune idée ni de réalité de terrain, ni de l'infectiologie clinique, aboutissant à des fictions absurdes. On pourrait leur laisser le bénéfice de la créativité et de la science-fiction. Malheureusement, ces projections littéralement psychotiques font des dégâts massifs. Mon expérience en santé mentale me fait éviter strictement les expressions de toutes faites comme schizophrénie ou psychose, qui sont à peu près très toujours utilisées abusivement, d'une manière désobligeante pour les personnes concernées. Médicalement, la psychose se caractérise par des distorsions cognitives, perceptuelles et affectives entraînant une perte de contact avec la réalité. Ici, le terme est hélas pleinement indiqué. J'en appelle à mes collègues de la faculté de médecine et autres instituts universitaires pour qu'ils arrêtent de produire et de colporter des modélisations fausses et anxiogènes. Ces experts se protègent en reconnaissant par précaution de langage et de caractère outrancier de leur formalisation. Les journalistes le mentionnent scrupuleusement, c'est à leur crédit. On n'en construit pas moins diligemment un sentiment de fin du monde qui non seulement n'a absolument pas lieu d'être, mais de surcroît est lui-même profondément nocif. On peut certes donner crédit à nos dirigeants d'envisager le pire, du pire et du pire, sur la base de ces élucubrations, pour ne surtout pas prendre le moindre risque qu'il se produise. En attendant, on construit une hallucination collective sur la base de chiffres qui ne veulent rien dire. La réalité, à nouveau, est que cette épidémie est largement moins problématique et dangereuse que ce qui est affirmé. Le visionnage de la première vidéo référencée en fin d'article donnera au lecteur ou lectrice les éléments nécessaires pour comprendre le bien fondé de cette affirmation. Je vous dirai à la fin ce qu'il y en est. Oui, mais tous ces morts et ces services engorgés. On va prendre une petite gorgée d'eau, ça ne vous dérange pas? C'est l'existence de ces cas graves estimés de manière absurde à 15% des cas, probablement en réalité 10 fois moins, qui justifie que l'on s'en remettra pas simplement à l'immunité de groupe. On nomme ainsi ce processus par lequel chaque personne qui contracte le virus n'en meurt pas, s'immunise. Et n'en meurt pas, s'immunise. La multiplication des immunisés conduisant à un effet collectif de protection immunitaire. En l'absence, jusqu'à il y a peu, de traitements pour protéger ou guérir les personnes à risque, le choix de laisser l'immunité se construire en laissant circuler le virus est apparu comme étant trop dangereux. Le risque pour les personnes vulnérables est tel qu'il s'avérerait éthiquement indéfendable de prendre cette direction du fait de la gravité des conséquences possibles. C'est une difficulté de la santé publique. La médecine, comme le journalisme, travaille dans le cas particulier. En médecine, c'est pour cela que, par exemple, il n'y a pas de remède miracle. Chaque personne sera susceptible de réagir différemment à un traitement. En journalisme, on cherche à illustrer une thématique avec des cas particuliers, en montrant donc des images et paroles souvent choquantes. En santé publique, on n'agit pas à ce niveau narratif, singulier. On collecte des données pour voir le contour exact d'une problématique. Ainsi, en Italie, seuls 7 des 2500 premiers décès concernaient des personnes âgées de moins de 50 ans. Ces cas existent, mais ils sont heureusement marginaux. Un possible motif d'inquiétude, en revanche, est cette affirmation qu'il y aurait des personnes jeunes en quantité non négligeable atteintes de pneumonie et placées sous assistance respiratoire. Elles semblent heureusement survivre, mais c'est bien le nombre de lits en soins intensifs qui est dès lors à risque de poser problème à l'encombrement des services de réanimation qui se poursuivaient. C'est dans ce paradoxe expliqué entre la très grande innocuité du virus pour l'immense majorité des gens et de sa dangerosité extrême, dans certains cas, que nous nous sommes trouvés coincés. Nous avons alors adopté des mesures absolument contraires aux bonnes pratiques, renoncé à dépister des personnes possiblement malades et confiné la population dans son ensemble pour enrayer la diffusion du virus. Mesures, à vrai dire, moyenâgeuses et problématiques puisqu'elles ne ralentissent l'épidémie qu'au risque de phénomènes de rebond potentiellement encore pires et qu'elles enferment tout le monde alors qu'une faible minorité seulement est concernée. Toutes les recommandations en santé publique sont à l'inverse, de dépister le plus de cas possible et de confiner uniquement les cas positifs le temps qu'ils soient plus contagieux. Le confinement général constitue un pauvre pis-aller face à l'épidémie dès lors qu'on manque de tout, ce qui permettrait de lutter efficacement contre elle. Pourquoi en est-on arrivé là? Simplement parce que nous avons défailli mettre d'emblée en place les bonnes réponses. Le manque de tests et les mesures de dépistage en particulier emblématiques de ce naufrage, alors que la Corée, Hong Kong et la Chine en faisait priorité absolue, nous avons été d'une passivité invraisemblable à organiser la mise à disposition de quelque chose de techniquement simple. Les pays mentionnés ont mis à profit l'intelligence artificielle, notamment pour identifier les chaînes de transmission possibles pour chaque cas positif. Avec les smartphones, on peut par exemple faire l'inventaire des déplacements et donc des contacts avec des personnes infectés ont eu avec d'autres personnes dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes. Enfin, nous avons réduit de manière importante la capacité de nos hôpitaux au cours de la décennie écoulée et nous retrouvons en manque de lits, de soins intensifs et de matériel de réanimation. Les statistiques montrent que le pays le plus touché, les pays les plus touchés, sont ceux qui ont réduit massivement les capacités des services de soins intensifs. Rien de tout ceci n'a été pensé alors que le risque de pandémie est un risque sanitaire majeur. La vérité, c'est que nous avons été complètement dépassés. C'est évidemment plus facile de jouer sur les métaphores guerrières que de reconnaître notre tragique impréparation. On parle de fin de partie. Le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles s'appelle Didier Raoul. Il est français, ressemble au choix à un Gaulois sorti d'Astérix ou un ZZ Top qui aurait posé sa guitare au bord de la roue. Il dirige l'Institut hospitalier universitaire Méditerranée Infection à Marseille avec plus de 800 collaboratrices et collaborateurs. Cet institut détient la plus terrifiante collection de bactéries et de virus tueurs qui soit et constitue un des meilleurs centres de compétences en infectiologie et microbiologie au monde. Le professeur Raoul est par ailleurs classé parmi les 10 premiers chercheurs français par la revue Nature, tant pour le nombre de ses publications, plus de 2000, que pour le nombre de citations par d'autres chercheurs. Il a suivi depuis le début du millénaire les différentes épidémies virales qui ont frappé les esprits et noué des contacts scientifiques étroits avec ses meilleurs collègues chinois. Parmi ses hauts faits, il a découvert des traitements notamment avec la chloroquine qui figure aujourd'hui dans tous les manuels d'infectiologie au monde. Le 28 février, il publiait donc une vidéo retentissante sur un canal en ligne comprenant le mot « tube » pour affirmer « coronavirus, fin de partie ». La raison de son enthousiasme? La publication d'un essai clinique chinois sur la prescription de chloroquine montrant une suppression du portage viral en quelques jours sur des patients infectés au SARS-CoV-2. Des études avaient déjà montré l'efficacité de cette molécule contre le virus en laboratoire in vitro. L'étude chinoise confirmait cette efficacité sur un groupe de patients atteints in vitro. Suite à cette étude, la prescription de chloroquine fut incorporée aux recommandations de traitement du corona en Chine. En Corée, les deux pays qui sont les mieux parvenus à juguler l'épidémie. La chloroquine est une molécule mise sur le marché en 1949, largement utilisée comme antipaludique. Tous les voyageurs des pays tropicaux se souviendront de comprimés de Nivaquin, un de ces noms commerciaux qui leur étaient prescrits à titre préventif contre la malaria. Ce remède a ensuite été placé par d'autres pour certaines zones géographiques restant en usage pour certaines destinations. L'hydroxychloroquine, nom commercial Plaquenil, a quant à elle été préparée en 1955 et présente une hydroxygation sur un des deux groupes éthyle de la chaîne latérale. So what? Pourquoi vous parlez de cela? Eh bien, parce que le Dr Raoul et ses équipes sont les meilleurs spécialistes actuels au monde de l'utilisation de la chloroquine. Il avait notamment eu l'idée géniale de l'essayer contre des bactéries intracellulaires qui pénètrent les cellules comme les virus, en particulier les Rickettsia. L'IU de Marseille dispose donc d'une expérience clinique et pharmacologique sans équivalent quant à l'usage de cette molécule. La chloroquine a également démontré une puissante efficacité thérapeutique contre la plupart des coronavirus, dont le redouté SRAS. De sinistre mémoire, Raoul trouva donc dans l'essai clinique chinois la confirmation que la chloroquine est aussi indiquée contre le COVID-19. Il fut toutefois accueilli comme un cheveu sur la soupe, ses confrères dénigrant d'emblée sa proposition. Les journalistes du Monde allèrent même jusqu'à qualifier sa communication de fake news, accusant reprise sur le site du ministère de la Santé, pendant quelques heures avant d'être retiré. On va prendre une autre gorgée d'eau, mais je trouve ça intéressant. On étudie ensemble. Les résultats de... Le docteur Raoul obtint pourtant dans la foulée de l'autorisation de conduire un essai clinique sur 24 patients dans son service qui fut appelé à partir du comité pluridisciplinaire de 11 experts formés en mars par l'exécutif français afin d'éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus. Les résultats de l'essai clinique étaient attendus avec impatience en premier chef par votre serviteur. Nous savons la prudence requise face à des substances prometteuses et l'importance de ne plus rien avancer avant que la recherche confirme ou non une hypothèse. La science n'est ni divination ni magie. Elle est observation, test, puis le cas échéant, validation. Les résultats de son étude clinique sont sortis hier confirmant l'obtention d'effets thérapeutiques spectaculaires. La méthodologie est robuste puisque l'IU de Marseille a pu comparer la négativation du partage viral chez les patients qui ont suivi le protocole avec des patients d'Avignon et de Nice qui n'ont pas reçu de traitement. Ceux qui n'ont pas reçu le Plaquenti, médicament à base d'hydroxychloroquine, sont encore porteurs à 90% du virus au bout de 6 jours, tandis que s'ils sont 25% à être positifs, pour ceux qui ont reçu le traitement, explique le professeur Raoul. Mais cela ne s'arrête pas là. L'IU Méditerranée Infection conseille, comme d'autres, depuis longtemps de donner cocomitamant, un antibiotique dans les infections virales respiratoires parce qu'elles compliquent surtout, elles se compliquent surtout de pneumopathie. Donc, les gens qui se présentent, qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l'azithromycine. Elle a été démontré que ça diminue le risque chez les gens qui ont des infections virales. L'autre raison, c'est que l'azithromycine a montré en laboratoire qu'elle est efficace contre grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Donc, quitte à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique efficace contre les virus. Et quand on compare le pourcentage de positifs et de l'association de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs, ajoute-t-il. On parle de portage viral. Une étude publiée dans la revue Lancet du 11 mars avait entre-temps révélé une donnée nouvelle mais essentielle. Le temps de portage viral duré entre la fin et le début de l'infection et donc de contagiosité possible s'avère supérieur à ce que l'on croyait, avec une durée moyenne de 20 jours, avec l'association hydroxychloroquine, azithromycine, cette durée est réduite à 4 à 6 jours. La réduction drastique du temps de portage viral donne non seulement l'espoir de traiter les cas critiques, mais aussi de réduire le temps nécessaire à une personne infectée pour ne plus être contagieuse, et donc présente des perspectives énormes pour prévenir la propagation du virus. Cette nouvelle est bien sûr la meilleure nouvelle que l'on pouvait attendre. Les autorités et les scientifiques l'ont donc accueilli avec joie, penserez-vous? Eh bien que nenni. Les réactions qui se sont fait entendre disputaient dans un premier temps la bêtise à la méchanceté. Certes, ni les études chinoises, ni l'essai clinique marseillais n'en valent leur preuve, évidence. Et selon les critères de la recherche scientifique, une réplication des résultats par d'autres équipes est requise sans même parler d'une étude randomisée en double aveugle. Le top of the pop des méthodologies de recherche. Mais diable, nous sommes dans une situation d'urgence. La chloroquine est un des médicaments les mieux connus et les mieux maîtrisés, en particulier par l'étude de Marseille. On peut donc tabler une très solide expérience relative au sujet de sa prescription. Se réfugier derrière un intégrisme procédural est éthiquement indéfendable dès lors qu'on parle d'un médicament qu'on connaît par cœur, qui a déjà démontré son efficacité sur d'autres coronavirus, confirmé sur celui-ci par deux essais cliniques et alors que des vies sont en jeu jour après jour. Raoul a relevé avec ironie qu'il n'était pas impossible que les découvertes d'une nouvelle utilité thérapeutique pour un médicament tombé de longue date dans le domaine public soient dorénavant pour tous ceux qui espèrent un prix Nobel grâce à la découverte fracassante de nouvelles molécules ou d'un vaccin. Sans oublier la perspective des dizaines de milliards de dollars de revenus à prendre là où la chloroquine ne coûte littéralement rien. On parle de célébration des soignants. Depuis quelques jours, la population confinée s'exprime chaque jour par jour, pour rendre hommage aux soignants et les soutenir dans les circonstances éprouvantes qu'ils vivent. Il s'agit d'une belle expression de solidarité, évidemment, méritée par des professionnels, les remarquables d'abnégation et d'engagement au fond de cette lourde souffrance et de ce nouveau danger. Dans les cercles des sommités, les choses sont hélas en général moins reluisantes. Les recherches, la recherche et l'autorité médicale sont aussi souvent faites de mesquinerie, de manipulation, de malhonnêteté ou d'abus en tout genre, ainsi que de pitoyables mais violents combats d'égo. Sur BFM TV, le docteur Alain Ducardonnet cassait aussitôt du sucre sur le dos de Raoul en rappelant qu'une conclusion scientifique se publiait dans des revues scientifiques et non pas par vidéo. Ceci alors, dans sa communication, le docteur Raoul, le chercheur français, qui, rappelons-le, a le plus publié dans des revues scientifiques dans son domaine, venait évidemment de préciser que l'article décrivait son essai clinique avait été envoyé pour publication à une revue à comité de lecture. Cette anecdote montrant le niveau comme les suivantes. Le 1er mars, bien après la publication du premier essai clinique chinois, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, disait aussi au micro d'Europe 1 « La chloroquine marche très bien dans une éprouvette, mais n'a jamais marché chez un être vivant. » Ce qui était parfaitement faux. Dans les retours de la presse nationale, l'insistante est mise lourdement sur le risque de surdosage de la chloroquine, effectivement toxique au-delà de 2 GR, pour en l'absence de comorbidité somatique. Les Chinois ont privilégié des doses de 2x500 mg pendant leur essai. Raoul et son équipe, trouvant ce dosage excessif, préféraient opter pour 600 mg par jour. L'objection est donc d'une consternante vacuité. Rappelons que nulle équipe clinique ne connaît mieux cette molécule que celle de Méditerranée Infection. Cela reviendrait à dire à une équipe de neurologues au sujet du Defalgan, où là, attention, il peut être toxique s'il est mal utilisé, donc ce n'est vraiment pas une bonne idée d'envisager de traiter les maux de tête avec ce médicament. On invoqua, si vous lisez la presse, les risques liés à une utilisation prolongée où le traitement proposé dure en moyenne 6 jours. Liu dispose de surcroît de l'expérience de prescription exceptionnelle tout au long cours jusqu'à 2 ans dans le cadre du traitement de certaines bactéries intercellulaires. On a beau savoir qu'il est bon d'être charitable avec son prochain, des fois la bêtise combinée avec la malhonnêteté rend la chose ardue. D'autres insistèrent et insistent encore sur le fait qu'on peut tirer de conclusions définitives sur la base d'essais cliniques, ce qui est tout à fait juste dans l'absolu, mais s'applique mal au cas présent. Étant donné la parfaite connaissance de cette molécule, situation absurde résumée ainsi par Raoul. Il y a une urgence sanitaire et on sait guérir la maladie avec un médicament que l'on connaît parfaitement. Il faut savoir où on place les priorités face à la réalité de l'épidémie. Il préconise d'arrêter de s'affoler et de détecter les maladies sans attendre que leur cas s'aggrave pour mieux les traiter. Le problème va plus loin. La solitude de la compétence extrême. Raoul explique comment Emmanuel Macron est venu chercher, après sa première annonce publique le 28 février, à l'étrange expérience qui a été depuis la sienne dans le cercle d'experts qui conseille le martial président. À la question posée par un journaliste de Marianne, « Y êtes-vous entendu? » Il répond, « J'ai dit ce que je pense, mais ce n'est pas traduit en acte. On appelle ça des conseils scientifiques, mais ils sont politiques. J'y suis comme un extraterrestre. » C'est sa certitude évidente, inconfortable pour les autorités avec les mesures prises actuellement contre l'épidémie. On marche sur la tête. Nos pays ont renoncé, contrairement aux Chinois et aux Coréens, au dépistage systématique au profit d'un confinement dont le docteur Raoul souligne qu'il n'a jamais été une réponse efficace contre les épidémies. C'est un réflexe ancestral de claustration, comme à l'époque du choléra et du hussard sur le toit d'Iono. Confiner chez eux des gens qui ne sont pas porteurs de virus est infectiologiquement absurde. Le seul effet d'une telle mesure est de détruire l'économie et la vie sociale, un peu comme bombardier une ville pour en éloigner les moustiques porteurs de malaria. La seule voie qui fasse sens, selon lui, est confiner les porteurs du virus uniquement et de les traiter en cas de besoin, soit pour éviter de terribles complications comme celles que l'on voit, soit pour réduire le temps pendant lequel elles sont contagieuses. En Suisse comme en France et partout en Occident, la décision prise est de confiner les gens chez eux, malades ou non. Quand ils sont malades, on attend qu'ils aillent mieux et du fait de la durée du portage viral, on les laisse ressortir alors qu'ils sont en fait encore contagieux. Les personnes à risque, elles, développent parfois des complications, en particulier une détresse respiratoire aiguë, qui les conduit aux urgences. Elles viennent alors engorger les services de soins intensifs et pour certains malades, y mourir alors qu'affirme Raoul, on aurait pu les traiter avant. Confiner l'ensemble de la population sans dépister et sans traiter, c'est digne du traitement des épidémies des siècles passés. La seule stratégie qui fasse sens est de dépister massivement, puis confiner les positifs et les traiter tout comme les cas à risque, puisque c'est possible, comme on le voit en Chine et en Corée, qui ont intégré l'association dépistage massif avec des prescriptions de chloroquine dans leurs directives de traitement. Ni Hong Kong, ni la Corée, deux territoires qui ont connu les plus faibles taux de mortalité face au COVID-19, n'ont imposé de confinement aux personnes saines. Elles se sont simplement organisées différemment. On parle de la décadence de l'Occident. On va prendre une autre gorgée. C'est intéressant, on étudie ça tranquillement, pas vite. C'est le fun, on regarde les deux côtés de la médaille. On parle de la décadence de l'Occident. Elle est hélas criante et révélée d'ici dans toute sa crudité. Nous disposons d'une médecine de qualité, mais d'une santé publique moyenâgeuse. Le leadership technologique et scientifique est passé à l'Extrême-Orient depuis longtemps déjà, et notre nombrilisme intellectuel nous fait souvent nous raccrocher aux lanternes du passé plutôt qu'à la science d'aujourd'hui. Des tests systématiques seraient faciles à instaurer pour autant qu'on en fasse une priorité sanitaire et que l'on s'organise ce que les Coréens ont fait en un temps record. En Europe, nous avons été complètement dépassés comme si nous vivions dans un autre temps. Les autorités comprennent maintenant qu'il s'agit d'une priorité absolue suivant en cela les recommandations insistantes de l'OMS. Produire les tests présente aucune difficulté. C'est de la PCR, réaction en chaîne par polymérase, banale et tout le monde peut faire. La question, c'est l'organisation par la technique. Ce n'est pas la capacité de diagnostic, nous l'avons, comme commente Raoul. C'est comme un choix stratégique qui n'est pas celui de la plupart des pays technologiques, en particulier les Coréens, qui font partie avec les Chinois de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie en faisant dépistage et traitement. On est capable dans ce pays, comme n'importe où, de faire des milliers de tests et de tester tout le monde. Certes, ces régimes politiques plus disciplinés ou même autoritaires ont un avantage de conformité sociale, mais la question n'est pas là. Le problème, c'est bien nous. La France s'enfonce dans des polémiques sans fin avant même de qui que ce soit ait ouvert la bouche, pendant que son jupitérien président s'envole dans des péroraisons antiques sur l'art de guerre en se contemplant dans un miroir. Dans notre pays, le Conseil fédéral a réagi sans agitation ni malice, mais en donnant comme toujours l'impression qu'on le révélait déplaisamment de sa sieste. Bref, pour notre pays qui se targue de sa qualité d'innovation et de biotech, c'est encore un peu la fête du village. Heureusement, on peut espérer que le vent change vite et bien. Le ministère de la Santé français vient de mandater le CHU de Lille pour un essai visant à répliquer les résultats obtenus à Marseille. Rappelons que des essais probants ont déjà été menés en Chine, en Corée, mais en France, on tient en général ce qui vient de l'étranger est indigne du génie français. Quelques services hospitaliers et quels et leurs médecins chefs sont capables d'envisager qu'ils se sont trompés. C'est par exemple le cas du docteur Alexandre Blibreux et de l'hôpital de la Salprière qui a tweeté récemment avec humour des choses. L'intérêt pour la chloroquine est désormais mondial avec des équipes travaillant aux quatre coins du monde. Si l'efficacité aujourd'hui très probable du médicament se confirme, ce sera un majeur game changer. Une fois les personnes à risque de complications diligemment traitées, les innombrables infections bénignes dues au SARS-CoV-2 que nous serons très nombreux à vivre pourvoiront l'immunité de masse qui ravalera cette pandémie au rang de sale mésaventure. Le dépistage de masse est désormais enfin une priorité sanitaire. Le temps d'organiser la capacité d'analyse des laboratoires, nous y aurons tous progressivement droit. Le laboratoire Sanofi vient par ailleurs de progresser au gouvernement français de produire gratuitement 1 million de doses de chloroquine. Et si la molécule ne tenait pas ses promesses, c'est bien sûr une hypothèse possible, mais si elle est à ce stade probable, d'autres médicaments sont actuellement en voie d'examen, notamment des antiviraux connus comme la favipiravir, testés en Chine également avec des premiers résultats cliniques encourageants, selon une nouvelle tombée de ce matin. Ce qui est frappant autour de la chloroquine, c'est la religiosité du débat que cette option provoque, un classique toutefois en science. Raoul est décrit comme une espèce de gourou malgré ses états de service scientifiques remarquables, et on décrit la croyance en ce médicament comme étant l'attente d'un remède miracle qui égarerait les gens en faisant miroiter des espoirs possibles. Heureusement, il reste une démarche qui s'appelle science et qui vise justement à passer du registre des opinions, chacun voit le monde à sa façon, à sa manière, à savoir ce que l'on éprouve, ce que l'on a éprouvé, vérifié et validé indépendamment des opinions personnelles. Si les résultats obtenus à Marseille, en Chine, se démentent, alors l'hallucination collective dans laquelle nous sommes engoncés se poursuivra, avec de très lourdes conséquences de notre société, nos modes de vie, notre santé psychique et sociale. Si en revanche, il se confirme, on aura fait un pas de géant pour sortir de cette lourde gonfle, et ce sera alors bel et bien fin de partie pour le COVID, et nous aurons appris bien des choses au passage. C'est un texte qui est assez long. On pourra le poursuivre demain. On poursuivra demain. Ça vient de la Suisse. Alors, hommage aux autorités. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec.
Welcome to your life. d'ouvrir le bar à soir, mes enfants, j'arrive de vacances à Acapulco. Hey, vous connaissez le Princesse? C'est assez beau, un des plus beaux hôtels d'Acapulco. Hey, des chambres, 350 piastres par jour. Ça vient-tu vite, ça, mes enfants? J'étais là 3 semaines. Ça m'agane une paye, ça a du bar en direct, mes enfants. J'étais là 3 semaines après, noir, noir comme le poing. J'arrive en bas, je paye mon bill quand ils m'ont donné la facture, je suis venu blanc comme un drap.
Regarde!
À chaque fois qu'il descend dans le bas de la ville chercher son chèque,
oui, il arrête ici.
Ben, je t'avais dit de ne pas dépenser ton argent, Léo.
Ben oui, mais écoute, il faut que je sorte une fois de temps en temps comme ça.
Oui.
Et puis j'ai arrêté manger au restaurant.
Ouais.
J'étais au Hélène de Champlain, là.
Arrête-là!
Ben oui, j'étais.
Ben t'as jamais été un fin gourmet, toi.
Bon.
Non.
Puis dis-moi surtout pas que t'as tenté à fumer, OK?
Non.
Je te trouverais pas drôle.
T'es allé manger là.
J'ai été manger là.
T'as du nerf de mon carton.
Ben non, qu'est-ce que tu veux?
Ouais, puis le service? Pas suivre à toi, ça va la place pour toi, t'es pas pressé pour manger.
Non, c'est vrai.
Pas attendre.
C'est vrai.
C'est quoi ça?
As-tu beaucoup de manger dans ton assiette?
Oh, c'est bien gaffe.
C'est ta vraie place, tu manges pas beaucoup.
Non, c'est vrai.
C'est quoi ça?
As-tu essayé de roast beef?
Ah oui, oui, oui.
Comment je l'ai trouvé?
Ben, c'est à tendre un peu.
Ouais, ben, pour toi, oui, c'est plus facile, t'as tes vrais dents, toi.
Ah! 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 Non, Blanchard! Ça va faire! Quand j'aurais besoin de faire de la publicité, je t'engagerai sûrement pas.
Est-ce que Marcotte est allé te saluer à ta table?
Ah oui, ah oui, ah oui. Il est venu?
Oui.
Après, j'ai eu payé la note.
Ah, bon, c'est bien ça. T'es bien allé dans une de ces places.
Ouais, ben, m'a-t'en fait, toi, ton Blanchard. À part ça, il paraît que nous autres, c'est la rivière avec nos 30 pieds, nos 26 pieds.
Ouais.
Il paraît que toi, tu vas te promener avec ton 60 pieds.
Certainement, monsieur.
T'es fait construire okay, un 60 pieds.
Pas 60, pas
bateau,
65 pieds, hey. Avec Flying Bridge.
Wow! Catalogue!
J'ai pas payé cher.
Combien ça t'a coûté?
33 000.
33! Pour un 65 pieds,
ben... Ben, mais moi, y a pas de moteur. Ah, tu sais, moi, je vais pas loin.
Puis, comment ça va?
Mes enfants, faut que je vous compte ça. J'ai rêvé...
Ben,
tu sais, nous autres, parliez des rêves la semaine passée.
Oui. Ouais.
J'ai rêvé hier. Ah. J'ai rêvé, mes enfants, que j'étais mort et que j'arrivais au ciel. Là, Saint-Pierre arriva.
Il y avait une erreur.
Tu arrivais au ciel.
Ah, ouais. Au ciel. Là, Saint-Pierre me dit, votre nom, puis tu as dit, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? J'étais comédien. Ouais. Puis il dit, d'autres choses de spécial? Ben, je lui dis, t'es 25 ans avec Claude Blanchard. Il dit, rentrez, vous méritez le ciel. Ah oui, je suis rentré.
C'est bien gentil, hein? Tu vas être 20 ans sans remettre les pieds dans mon bar.
Bon,
moi aussi, j'ai rêvé pour le temps.
Bon.
Ouais. Fait un rêve extraordinaire, mes enfants. Et moi, là, j'ai rêvé, moi, j'étais avec une bien belle fille, tu sais, là. Mais quand je vous parle de quelque chose,
vous savez,
quelque chose, là.
Oui. On te croit sur parole.
Un beau chandail, là,
oui.
Tu sais.
Ouais. Bien meublé.
On voyait que le chandail, là, il y avait autant de monde qu'au score hier, c'était plein, là, tu sais, veux dire, quelque chose,
là. En veux-tu en venir, si t'en veux plus, laisse-moi
voir, c'est là. Fait qu'à un moment donné, dans mon rêve, je l'invite à prendre un drink, manger une petite bouchée, tu sais,
Non, on n'a pas Hélène de Champlain, j'ai pas.
Non, c'est une fille
ben
qui
voulait manger. Il voulait manger.
Ça fait que je l'emmène au restaurant, tout ça, plein de drinks, tout ça. Ben, elle m'a trouvé tellement gentil. Elle dit, pourquoi vous venez pas faire un tour à mon appartement?
Ah bon?
Elle t'a invité à monter.
Ouais, mais dans le corps, je dis, moi, c'est pas parce que ça me t'entend. Moi, ces affaires-là...
Maudit que t'as mangé.
Et là, elle tira sur mon linge.
Ah, elle t'a tordu un
bras. Fait que là, mon ami, j'arrive dans son appartement, elle rentre dans la douche, une petite propre. Fait qu'elle sort
de la douche. Je rien faire.
C'est avec moi, je rentre dans la douche, puis moi, je la laisse plier, je fais ton prêt dans mon verre. Fait qu'à un moment donné, j'arrive dans l'appartement. Là, c'était le plus beau moment de ma vie.
Ouais.
Qui est arrivé.
Elle m'a présenté son frère, qui est deux.
Un beau gars.
C'est un beau rêve.
Il y avait un avion qui est Paris-New York. Puis il y avait l'archevêque qui était là, tu sais. Dans l'avion, ils voyagent eux aussi, tu sais. Ça fait qu'il appelle le garçon. Il dit, garçon, pourriez-vous...
Le pape n'était pas dans l'avion. Il était ici.
Voulez-vous m'apporter un whisky?
Oui.
Fait qu'il dit, certainement, éminence. Et puis il part. Garçon, viens ici. Pourriez-vous me dire à combien on est d'altitude, là? On dit là, on est à peu près à 30 000 pieds. Il dit quand c'est l'île whisky ou un trop proche du boss.
Oh! Oh! Oubliez ça.
Hey, il y avait une fille ici au bar la semaine passée.
Ouais?
Pour moi, c'était la fille d'un pêcheur.
Pourquoi?
Elle attendait un poisson ici. Elle... Oh. Hey, la loi n'est pas changée ici au Québec. Hein?
Comment ça?
Tu sais que c'est 18 ans pour rentrer dans un bar.
Oui, oui.
Au Biafra, c'est 18 livres. Hey, il y a un gars qui arrive, puis peu les à peu près, max 80 livres. Mm-hmm. Il arrive à moi, il dit, je suis maître d'hôtel, c'est moi qui ai le bon sens. Je dis, où ça? Je dis, au Biafra, je les sors deux du coup. Je les colle et de la crise igloo.
Oh,
elle est trop forte, là. Elle est trop forte.
Oui, oui.
Mais toi, il n'y avait pas.
Il y avait?
Pas déjà 3 heures.
Hein?
Il y a 3 heures.
On peut faire
3 heures, on ferme.
Hey, hey, hey!
Avec les meilleurs succès radio et toutes sortes de patentes sur Radio Fiat Lux. Radio Fiat Lux. Dans l'émission GFP en direct, Georges Fernand-Poirier qui était content d'être avec vous, de vous accompagner pendant cette pandémie terrible. Jusqu'à 18h, du lundi au vendredi, puis le matin de 8h à 10h. Amusez-vous bien. Puis on va avoir un temps de canard à soir.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear.
Alors, c'est Georges Fernand-Poirier qui vous donne rendez-vous demain matin à 6h pour une autre édition de GFP en direct. J'espère que vous avez aimé ça. Demain, on vous fera écouter la deuxième partie des recherches du Dr Raoul. Alors, c'est Georges qui vous dit demain, 8h AM, sur la radio indépendante de Québec. Radio Fiat Lux, radio.fiatlux.ca. Salut tout le monde, à demain matin, 8h AM, soyez là.
Sur radio.fiatlux.ca.
Ça. Un peu, j'ai envie de le voir. Dis-moi ça, www.
Radio.
Radio.
Point Fiat. Lox.
Ennemi. Fiat, pas des choses.
Ouais, mais en Italie. Point TK.
Yeah.
Vous écoutez la radio expérimentale Radio Fiat Lux.tk. Passez une belle soirée. À demain, 8h AM.
Sécher tes yeux rougis, maintenant que l'on s'est tout dit. Dis-moi ce qui ne va pas, chaque fois que ton cœur m'en voudra, les reproches ne